Nous allons maintenant voir un troisième diaporama qui est sûrement le plus important de cette soirée et qui se rapporte à la question de l'existence et de la libération des liens occultes. Et on va réfléchir à partir du cas de la conjuration magique des maladies. On aurait pu prendre un autre point de départ. Mais nous allons partir d'un exemple ordinaire. Une personne se brûle gravement, elle souffre, donc on lui conseille d'aller voir un toucheur, un guérisseur. Si c'est un enfant, on va l'emmener, sans lui demander son autorisation évidemment. Le guérisseur va peut-être faire des impositions de main, comme disait ma voisine quand j'habitais à la Chapelle-du-Chêne, marmonner une prière, en fait c'est une formule magique, accompagner quelquefois de signes de croix, en soufflant sur la brûlure, un petit rituel, bon. Et puis après avoir délesté son porte-monnaie au passage, la personne constate fréquemment qu'il s'est passé quelque chose de bon, au minimum la suppression de la douleur. Mais il s'est passé quelque chose de bon, c'est ce que je vous disais déjà tout à l'heure. Mais elle ne s'attend pas à en recevoir des conséquences négatives, pas du tout. Pas du tout. En effet, une formule magique a été prononcée. Alors vous allez me dire, bon... Eh bien écoutez, voici ce que vous pouvez obtenir très fréquemment, sous cette forme ou sous une forme approchante, la formule de base pour conjurer les brûlures. Feu, 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 je te conjure de perdre ta chaleur, comme Judas perdit sa couleur en trahissant notre Seigneur. Bon, on n'est pas dans des choses très élaborées ici, on est dans un occultisme de base, mais vous voyez bien que ce n'est pas une prière, enfin je l'espère. Mais une invocation magique. Elle s'adresse au feu, le commande, le conjure au nom de Judas et en faisant allusion à Jésus. Judas, évidemment, c'est celui des 12 apôtres qui a trahi Jésus. Il n'est pas encore inscrit au calendrier des saints, que l'on sache. Mais vous voyez, c'est une petite ritournelle au fond assez agréable parce que ça rime. Hein, feu, 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 je te conjure de perdre sa chaleur. Comme Judas perdit sa couleur en trahissant notre Seigneur, ça se mémorise facilement. Ne la retenez pas, c'est pas utile. Mais voilà. Donc la personne va dire cela à voix basse, pour éviter qu'on se l'approprie précisément. Mais j'ai eu la confidence, moi, plusieurs fois, évidemment. Et immédiatement, vous avez un résultat. Mais ce résultat n'est pas une vraie guérison. En effet, il s'agit de la disparition d'un symptôme organique, la douleur liée à la brûlure, mais avec des conséquences se situant à d'autres niveaux de la personne, comme on peut le constater après. Donc il s'agit d'une sorte de tour de passe-passe, d'un déplacement de symptômes, si vous voulez. Ensuite, il faut dire qu'il ne s'agit pas d'une guérison d'origine divine, car la plupart des gens sont dans l'illusion à ce sujet et dans l'erreur. Jamais la guérison divine n'est automatique. Jamais. Elle n'est pas la propriété de l'homme, le pouvoir de l'homme. Mais au contraire, elle est soumise à la volonté de Dieu. Donc vous comprenez bien que si une personne immédiatement produit un effet qui semble être un effet de guérison, automatiquement, régulièrement, c'est pas possible que ça vienne de Dieu, car Dieu ne fait pas comme cela, jamais. Donc c'est autre chose. Il m'est arrivé personnellement de faire des temps d'évangélisation avec des prêtres ayant reçu des charismes de guérison, comme le père Tardif, comme le père Alter, qui sont décédés tous les deux, mais jamais il y avait de guérison automatique dans un créneau spécifique. Unique, jamais. C'était Dieu qui guérissait comme il voulait, qui il voulait, quand il voulait. Il s'agit d'autre chose. Il s'agit de ce qu'on appelle la conjuration magique des maladies, qui est opérée par magie blanche. C'est le nom technique, conjuration magique des maladies. Ce qu'on appelle la magie, on va y revenir tout à l'heure, donne toujours et immédiatement le petit bien recherché, mais provoque aussi toujours un plus grand mal ailleurs. Il va falloir que vous reteniez cela parce que c'est la clé de la compréhension. Elle donne toujours immédiatement un petit bien recherché, mais provoque aussi toujours un plus grand mal ailleurs. Donc quand quelqu'un se prétend guérisseur et qu'il obtient des résultats réguliers à propos d'un mal précis, par exemple les brûlures, ou le zona, ou le mal de dents pour les nourrissons, il s'agit toujours, et j'ai souligné, parce que pour moi c'est sans appel, il s'agit toujours de la conjuration magique des maladies. La salle d'attente ne désemplit pas, la prière est marmonnée, ou le patient subit des impositions de mains pour du magnétisme. Les résultats sont automatiques et immédiats. Les finances marchent bien. Donc on va essayer de regarder de plus près ce qui se passe et les conséquences engendrées. Nous allons regarder l'envers du décor. Je vous ai dit tout à l'heure, un petit bien immédiat au prix d'un plus grand mal plus tard. L'action vérifiable des pratiques magiques et occultes est à double détente. Un petit bien organique immédiatement obtenu, après lequel tout le monde court, au prix d'un plus grand mal, ce que j'appelle l'atteinte occulte, qui est d'ordre spirituel et psychique, mais qui ne se révélera que plus tard, et surtout dont on ne vous parle jamais. Comme ça se révèle plus tard, on ne fait pas le lien avec la demande qu'on a faite. Ce double effet, dont le second est masqué et pervers, montre que la puissance qui agit dans la conjuration magique ne vient pas de Dieu. Dans son fond, elle est diabolique. Ce n'est pas que Dieu ne puisse pas faire des choses à double effet, il en fait souvent, mais c'est un double effet, au contraire, positif et amoureux. Tandis que là, c'est toujours un double effet tragique. Donc c'est la raison profonde pour laquelle il est toujours dangereux de demander le service de guérisseur, de magnétiseur, de radiesthésiste et de se livrer pieds et poings liés à ce qu'ils font. Ce que j'appelle personnellement le lien occulte ou l'atteinte occulte, c'est le résultat de cette demande de service auprès de personnes ayant des pouvoirs magiques ou occultes, car à y bien regarder, nous péchons contre la sainteté de Dieu en idolâtrant notre santé. Nous prenons des moyens spirituellement maléfiques. Deuxièmement, nous ouvrons la porte à l'action possible du démon qui va pouvoir lier une petite partie de notre liberté spirituelle. Je me souviens de cet exemple d'une personne dans la région de Sablé ou en Maine-et-Loire même, qui installait un chauffage central chez lui, et à un moment, il y a un bouchon de radiateur qui cède, un bouchon bas, en bas du radiateur, et de l'eau brûlante sort, jaillit du radiateur, et il s'est dit, si je ne fais rien, tout va être inondé, donc il s'est acharné à essayer de remettre le bouchon en place. Il s'est brûlé les doigts tellement gravement qu'il a fallu l'emmener immédiatement à l'hôpital. On lui a pelé la peau de chacun des doigts comme une banane. On lui a mis donc des pansements à chaque doigt. Et à l'issue de cela, sa femme me téléphone en me disant « Est-ce que vous voulez bien le recevoir pour lui donner le sacrement de l'onction des malades ?» Bon, je lui dis « Attendez, je ne donne pas le sacrement des malades pour un rhume. » Pour une brûlure, ça ne m'est pas arrivé non plus, mais enfin, j'ai dit. Et puis j'ai réfléchi rapidement et j'ai dit ben, venez, venez. Bon, puis le temps qu'ils viennent, j'ai réfléchi encore plus et je me suis dit après tout, ils ont choisi la bonne démarche parce qu'ils avaient un choix possible entre eux, aller vers le guérisseur et ils auraient obtenu effectivement un soulagement ou bien se confier à Dieu. Donc ils sont arrivés, on a célébré le sacrement de l'onction des malades, ils sont repartis. On a prié pour confier cette épreuve au Seigneur et la cicatrisation s'est passée progressivement, au mieux, et ils sont très heureux de cette solution qu'ils ont choisie. Mais voilà. Alors peut-être on n'est pas habitué à réagir de cette façon-là, c'est ça aussi la question. Alors ce que j'appelle aussi le lien occulte Et la teinte occulte, c'est ce qui provient des portes qui ont été ouvertes dans les générations précédentes en direction de pratiques occultes ou de demandes de services occultes. En effet, dans les générations passées, il se peut que nos parents, nos grands-parents, il se peut que quelqu'un ait eu un don, il se peut, etc. Et je m'excuse de cette affirmation un petit peu brutale, il existe une hérédité spirituelle comme il existe une hérédité psychique, psychologique, organique. C'est étonnant, mais c'est ainsi. Et on s'en aperçoit très facilement en écoutant les gens et en faisant une anamnèse des pratiques occultes. Alors je vais prendre un exemple récapitulatif, si vous voulez, pour bien me faire comprendre. Voici un adulte qui a une trentaine d'années peut-être, dont les parents allaient voir pour eux-mêmes des guérisseurs et des magnétiseurs assez couramment. On aurait pu dire aussi que les grands-parents y allaient aussi, et qu'il y a eu transmission dans la famille d'un don, enfin bref, voilà. On baignait déjà dedans au niveau des parents. Quand il était petit, on l'a fait toucher pour qu'il ne pleure pas au moment de sortir les dents. Enfant, il s'est ébouillanté, on l'a emmené pour conjurer le feu de la brûlure. Il y est retourné pour des verrues. Adolescent, il a fait quelques séances de spiritisme avec les copains jusqu'au moment où il a pris peur devant certaines manifestations. Adulte, il est arrivé qu'il s'aille se faire prédire l'avenir. Il a fréquenté des personnes compromises avec la magie noire. Bon, peut-être que je force un peu le trait, mais en tout cas, arrivé à l'âge de 30 ans, il souffre d'un certain nombre de problèmes qu'il va exprimer de cette façon. Il a depuis longtemps un fond d'angoisse, de peur, qui le mène parfois à un état dépressif avec des pulsions de suicide. Il a le sentiment que tout ce qu'il entreprend échoue. Il a raté des promotions professionnelles, il a vécu plusieurs échecs affectifs, si bien qu'il n'est pas marié ou encore il est divorcé. Tout va de travers. Il est aux prises peut-être avec des phénomènes paranormaux du genre il y a des dysfonctionnements dans les appareils électriques ou technologiques à la maison, etc. Bon. Ma voiture tombe en panne. Moi, la mienne aussi, remarquez. Hein. Mais voilà. Il a fini par s'éloigner de la foi et de la prière. Il est quelquefois en proie à des pensées injurieuses contre Dieu, des blasphèmes. Donc voilà une personne qui va manifester un certain nombre de symptômes qui sont à la fois psychiques et spirituels et qui proviennent probablement de l'ensemble des démarches occultes qu'elle a vécues depuis son enfance et qui l'ont précédée aussi dans les générations passées de sa famille. Seulement, on n'en est jamais sûr. C'est ça la question. On n'en est jamais sûr. Mais en tout cas, il faut toujours oser faire ce que j'appelle l'anamnèse des pratiques occultes. Pour savoir si l'origine des troubles dont une personne se plaint est occulte, il est utile de faire revenir à sa mémoire ce qu'elle a vécu au niveau de son hérédité. Est-ce que ses parents, ses grands-parents étaient déjà compromis avec des contacts occultes? Y avait-il dans la famille quelqu'un qui pratiquait activement l'occultisme? Parce que ça, c'est un point d'ancrage, si vous voulez, qu'on va retrouver ensuite chez les descendants. Son enfance, l'a-t-on emmené voir des guérisseurs quand elle était petite? A-t-on accompli sur elle des rituels? Et ça arrive dans d'autres cultures que les nôtres. Sa responsabilité, quels sont les contacts qu'elle a eus elle-même? Est-elle allée voir elle-même des guérisseurs, des magnétiseurs? A-t-elle fait des séances de spiritisme, de la divination avec des voyants, des pratiques de discipline ou de médecine d'origine orientale, des thérapies alternatives douteuses, des thérapies énergétiques? Et puis ses symptômes, quels sont les symptômes qui la perturbent? Donc il faut arriver à lister tout cela pour se faire une idée. Si les réponses sont négatives, les parents étaient indemnes de tout cela, les grands-parents aussi, il n'y avait pas de don, elle-même n'a pas été emmenée, elle n'est jamais allée voir. Si les réponses sont négatives, ça n'a rien à voir avec l'occultisme, c'est évident. Si au contraire, et ça peut arriver, vous obtenez un tableau extrêmement précis et puissant sur ce thème-là, il est très probable qu'il va falloir faire une prière de libération des liens occultes et que les difficultés de la personne sont un lien avec ces traitements magiques. Je me permets ce petit tableau qui est un tableau de récapitulation des symptômes d'atteinte occulte. Ce que j'appelle l'atteinte occulte de façon plus technique, si vous voulez, ce serait une captivité dans des troubles psychologiques et psychiques associés à une stérilisation et à une atteinte spirituelle. Donc vous voyez, il y a les deux niveaux, les deux domaines. Une captivité dans des troubles psychologiques et psychiques, personnellement j'en liste trois qui reviennent vraiment très fréquemment chez les gens. Le premier, c'est l'angoisse sous toutes ses formes. La mélancolie, les cauchemars. Emmenez donc un enfant chez des guérisseurs pour les dents. Il peut vous sortir des cauchemars de façon répétée juste après. Des crises d'anxiété graves. Des obsessions, des dépressions, neurasthénie. Et puis, dans des cas plus importants, des idées, des pulsions suicidaires, vraiment. Il y a des familles entières, quelquefois, qui sont tapissées par l'angoisse. Ça se lit presque sur leur visage. Le deuxième symptôme psychologique et psychique, la violence. Les personnes marquées par l'occultisme peuvent avoir des accès de violence, de colère, mais vraiment dramatique. Une humeur querelleuse et colérique, dramatique. Le petit truc qui est en travers sur la table et qui produit une colère tel que tout le monde est abattu pour le reste de la journée, quoi. Et la vulgarité, la sexualité exacerbée et anormale, les tendances aux actes de violence et aux crimes. Les personnes mariées qui sont aux prises avec un conjoint ou une conjointe engagée dans l'occultisme savent très bien de quoi je parle. L'enfermement anormal dans des situations bloquées, ça aussi, c'est vraiment pour moi extrêmement symptomatique. On entend ça vraiment très très fréquemment. Rien ne marche, tout va de travers, j'arrive à rien, ça fait des années que je me bats pour rien, il y a toujours des bâtons dans les roues, etc. Et ça, quand j'entends ça, je dis bon, c'est assez clair. Voilà. Donc quand vous avez quelque chose de ce type-là, de cet ordre-là, et que c'est associé à une stérilisation ou une atteinte spirituelle, c'est-à-dire difficulté à prier, impossibilité de rentrer dans une église, ou disparition de la prière et de la pratique sacramentelle, ou incrédulité vis-à-vis de la parole de Dieu, pas une petite incrédulité, mais vraiment une dérision prononcée, ou encore une dureté, un refus, un athéisme endurci et triomphant. Quand la personne se plaint de pensées blasphématoires involontaires, notamment quand elle est à la messe, au moment de l'élévation, etc. Quand des personnes font état de divisions et de brouilles graves dans les familles, mais graves parce que ça dure pendant des générations et c'est chignon au possible, enfin. Et donc c'est d'ordre spirituel aussi ça. Généralement, quand il y a les deux ensemble, il est très probable qu'on a affaire à un impact occulte, à des liens occultes, à des portes ouvertes par lesquelles les esprits mauvais peuvent travailler dans des petits secteurs de notre liberté spirituelle. Pardon. Il va falloir donc faire des démarches pour s'acheminer vers une libération. Et la première démarche à faire, c'est de proposer à la personne de recevoir une prière de libération, mais elle doit être libre. On ne prie pas sans la volonté de la personne, sans qu'elle le demande ou l'accepte librement. C'est très important, ça. Et moi, je refuse de prier quelquefois pour des personnes qui ne sont pas là ou pour des personnes de la famille éloignée. Non. Si c'est des enfants, on peut prier aussi, mais vraiment, il est important que la personne s'engage elle-même dans une démarche de demande de libération. La personne qui prie sera essentiellement un prêtre. Ça peut être aussi quelquefois une personne laïque qui aurait reçu ce don, qui aurait reçu ce ministère de prière de libération. Mais dans ce cas, elle doit être en lien avec un prêtre. Elle doit être clairement identifiée. Méfions-nous des électrons libres. Elle doit être clairement identifiée. Et on doit pouvoir se renseigner encore une fois. La deuxième démarche à faire pour s'acheminer vers la libération, c'est de se repentir, de demander pardon à Dieu pour les pratiques occultes, le sacrement de réconciliation chaque fois qu'il est possible et souhaitable. Bon, évidemment, c'est pas simple quand les personnes ne se sont pas confessées depuis longtemps. Puis quelquefois, elles vivent une vie telle qu'elles ne peuvent pas recevoir ce sacrement. Donc, mais voilà, moi j'introduis toujours, quand je fais une prière, au moment de prier pour les liens occultes actuels, dépendant de la responsabilité de la personne, j'introduis toujours la prière du « Je confesse à Dieu » pour se repentir devant Dieu de ce péché contre ta sainteté. La troisième démarche à faire, c'est de jeter, de se débarrasser de tout matériel occulte en sa possession, des livres. Il peut y avoir quelquefois des étagères entières de bibliothèques sur des sujets occultes, un pendule, des objets qui ont été donnés par des personnes engagées dans l'occultisme pour pouvoir introduire à l'intérieur même de la maison, chez la personne, des points de fixation. Il existe des objets bénis, il existe des objets maléficiés aussi, il faut le savoir. Quand un objet a été travaillé dans des rites d'idolâtrie ou par du magnétisme ou autre, ça peut faire problème. L'autre jour, je recevais une famille, on a longuement tourné autour du pot, puis on s'est aperçu que dans la maison, il y avait, et c'était le Père, puis le Fils, mais ce n'était pas le Saint-Esprit. Il y avait vraiment une bonne cinquantaine de CD du groupe ACDC, Antichrist, Death to Christ, de musique hard rock des années 70-80. Mais, et puis un grand poster en l'honneur d'ACDC dans la maison, dans la chambre du fils, etc. Donc, ils n'ont même pas eu besoin de leur dire, ils ont très bien compris eux-mêmes. Ménage. Il y a quelquefois un grand ménage à faire dans la maison. Et puis, quatrième démarche à faire, il faut renoncer dans l'avenir à toute autre pratique occulte. Toute autre pratique, c'est pas la peine de faire une prière de libération, si c'est pour y retourner après-demain, évidemment. C'est quoi cette prière de libération des liens occultes? Eh bien, c'est une prière d'autorité accomplie dans la foi en Jésus qui a vaincu le mal. Et tout prêtre peut la faire. Tout prêtre peut prier pour une personne en demandant qu'elle soit libérée de ses liens occultes. Ce n'est pas un exorcisme. Cependant, c'est un ministère à risque, c'est vrai. Donc, pour éviter toute manifestation inutile, pour que la prière se déroule dans la paix, il est bien, avant de commencer, de se placer sous la protection du sang de Jésus. Mais ça, c'est valable aussi pour des personnes qui sont aux prises avec, dans leur entourage, des personnes compromises avec l'occultisme. On peut habiter juste à côté d'un magnétiseur qui reçoit à longueur de journée des gens et qui exerce son art. Ça peut, quelquefois, produire des perturbations, des dégâts collatéraux, comme on dit, n'est-ce pas? On peut avoir un conjoint qui est engagé, on peut avoir des enfants qui... Bon, on peut avoir la tante Aglaé qui... ceci, cela, enfin... Donc, il faut, dans certains cas, je conseille de plus en plus, savoir faire cette prière de protection qui consiste à se placer sous la protection du sang de Jésus. Soi-même, sa famille, ses biens, hein, les personnes qui expérimentent ce que c'est que les phénomènes paranormaux se fixant sur les objets électroniques, les voitures, les objets techniques, etc., savent de quoi je veux parler, quand leur vie est complètement pourrie par des pannes et des problèmes à répétition. Il faut aussi mettre ses propres biens sous la protection du sang du Christ. Si vous trouvez ça curieux, parce que moi j'ai trouvé ça longtemps tout à fait curieux, ça me semblait bizarre, j'ai quand même regardé dans le missel romain, à la messe du Christ rédempteur et du précieux sang, ça existe dans le missel, il est dit, Dieu qui a refait nos forces par le pain et la coupe du royaume, c'est la prière après la communion, nous te supplions encore, protège contre la peur de l'ennemi ce que tu as sauvé par le sang de ton fils. Voilà, et puis la prière pour couper les liens occultes, le prêtre va prier pour couper les liens occultes héréditaires, reçus comme un fardeau de la famille. Il va prier pour couper les liens occultes actuels, supposés acquis suite aux démarches personnelles de la personne. Il va prier pour demander la guérison intérieure par rapport à des symptômes psychologiques ou psychiques. Il va demander à l'Esprit Saint, déjà reçu au baptême et la confirmation, de déployer sa présence dans la personne et de lui accorder tous les dons dont elle a besoin actuellement. Mais dans certains cas de plus en plus fréquents, on peut être amené aussi à prier pour lever des malédictions, briser des rituels magiques, fermer des chakras, etc. Je fais de plus en plus ce genre de choses. La prière pour couper les liens occultes est très simple à faire. Elle s'appuie sur la grâce du sacerdoce et sur la foi. Au nom de Jésus, je coupe les liens occultes héréditaires ou actuels. Il faut ajouter que seule la personne pour qui on aura prié et qui a accepté de faire tout ce qu'on a dit ici, peut dire si elle est libérée ou pas.